Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Place au débat d'Europe Soir. Maintenant, nous sommes avec Marc Ferracci, député Renaissance des Français de l'étranger. Bonsoir.
Bonsoir.
Également avec nous, le député La France Insoumise, NUP de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'heure de la rentrée pour le gouvernement a donc sonné ce matin. Emmanuel Macron parle de grande bascule, de la fin de l'abondance et de l'insouciance. Comment avez-vous réagi, Thomas Porte, lorsque vous avez entendu ces mots, puisqu'ils ont été dits face caméra par le président ?
Je crois qu'il faut savoir de quelle abondance on parle. Si on parle de l'abondance des profiteurs de crise qui sont gavés, de l'abondance de la fortune des 500 familles les plus riches de France qui ont doublé sous le quinquennat précédent d'Emmanuel Macron. Et on a même un chiffre ce soir qui vient de sortir, qui a été révélé notamment par le quotidien Les Échos, qui dit qu'au deuxième trimestre 2022, on a battu un record de versement de dividendes aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en France. Donc l'abondance, elle est pour les plus riches dans le pays, mais elle n'est pas pour celles et ceux qui souffrent. Je rappelle à votre antenne qu'on a 10 millions de pauvres, on a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 12 millions de précaires énergie dans ce pays. Donc quand on parle d'abondance, il y a une forme d'indécence, parce que c'est pour une minorité, pendant que la majorité du peuple souffre. Donc je crois que ce président-là, il est déconnecté, il se place en commentateur de la vie politique et en protecteur des plus riches, ce qu'il a fait pendant 5 ans et ce qu'il a continué à faire pendant les premières semaines de cette législature exceptionnelle, où nous avons notamment débattu de la loi pouvoir d'achat, où il a refusé de taxer celles et ceux qui sont gavés pendant des semaines. Donc moi j'ai une pensée pour les Françaises et les Français qui souffrent, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à vivre et qui entendent le président de la République parler d'abondance.
Marc Ferracci, vous avez entendu la parole d'un président face aux crises. Quand il parle d'abondance, il parle surtout d'accès express aux matières premières, n'est-ce pas ?
Bah, évidemment, quand j'entends M. Porte évoquer les sujets qu'il évoque, je me dis qu'il y a au moins un malentendu sur ce qui a été dit et pensé par le président de la République. L'abondance, c'est l'accès à des ressources dont on pouvait penser qu'elles étaient illimitées. C'est à la fois les ressources énergétiques, le gaz, le pétrole, dont on savait il y a déjà quelques années qu'elles allaient s'épuiser, mais cet épuisement s'accélère du fait de la situation géopolitique, s'agissant du gaz et du pétrole, du fait de la guerre en Ukraine. C'est l'accès à l'eau, on a bien pu constater cet été que c'était une forme d'accélération à laquelle nous étions confrontés dans les sécheresses, dans la difficulté à accéder à cette ressource qui est rare dans un certain nombre de pays et qui commence de l'être en France. Ça peut être également, du fait de la situation géopolitique, une difficulté à accéder à certaines matières premières qui sont utiles à l'industrie. Ça peut être les composants, ça peut être également des matières premières agricoles. Donc tout ça impacte l'intégralité de nos sociétés occidentales, impacte l'intégralité du monde et impacte aussi bien les classes moyennes que les classes populaires. Et de ce point de vue-là, je pense que le président a voulu expliquer sans catastrophisme que nous allions devoir trouver des solutions collectivement à la fin de cette époque. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de basculements auxquels nous avons commencé d'apporter des réponses. Je pourrais vous donner quelques détails sur la régulation de l'eau, par exemple. Des choses ont été faites dès cet été. Des choses ont été faites dans un horizon de moyen terme, notamment pour adapter notre système agricole afin de le rendre moins consommateur en eau. Dans le cadre du plan France Relance, par exemple, on a dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Donc il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter à un monde de ressources rares. Je pense que c'était ça le sens de cette phrase du président de la République. Et s'agissant de l'insouciance, puisque vous avez évoqué aussi ce sujet, je pense qu'elle fait également référence à un monde qui est moins sûr d'un point de vue géopolitique qu'on ne pouvait en avoir le sentiment il y a quelques jours, il y a quelques semaines encore. Voilà.
Alors, Marc Ferracci, certains Français n'ont peut-être pas vu l'optimisme dans le propos d'Emmanuel Macron, qui a également parlé du coût à payer, le coût de la liberté et de ses sacrifices à prévoir également. Il nous a un peu cassé le moral aussi, le président.
Mais vous savez, il faut regarder les choses de manière lucide. On a aujourd'hui en Europe quelque chose qui s'appelle la guerre. On peut utiliser le vocable du Kremlin et de Vladimir Poutine et dire qu'il s'agit d'une opération spéciale ou quoi que ce soit. La guerre est présente en Europe. Donc si on contourne cette réalité-là, si on se ferme les yeux à cette réalité-là, eh bien, je pense qu'on n'est pas lucide. À partir de là, la question, c'est de savoir si on veut préserver un certain nombre de choses. Si on veut préserver la paix, si on veut préserver nos frontières et n'a échappé à personne qu'un certain nombre de pays plus proches de la Russie que nous, la Finlande et la Suède en particulier, eh bien, se sont sentis, non pas agressés, mais se sont sentis en danger au point de décider d'intégrer l'OTAN, tout ça doit nous interpeller. Et quand on dit qu'il faut faire des sacrifices, eh bien, il faut faire en tout cas des efforts pour préserver ce modèle qui s'appelle la démocratie telle que nous la vivons, la démocratie libérale, face à des régimes autoritaires qui n'ont de cesse d'avancer leurs pions. Je pense à la Russie, on peut aussi parler de la Chine avec les velléités qu'elle peut avoir sur Taïwan et qui ne datent pas d'hier. Donc je pense qu'il faut aussi parler aux Français de manière lucide, de manière responsable, et leur dire ce que sont les vrais enjeux de cette guerre.
Alors, de toute façon, le moment est tellement sensible qu'il est difficile d'avoir les mots justes, hein, qui qu'on soit d'ailleurs. Hein. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, promet des grèves en France ces prochains mois. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Il faut dire que la perspective économique n'est pas très encourageante. L'inflation devrait toujours grimper. Pas d'amélioration attendue avant début 2023. Ça, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'affirme ce soir. Thomas Porte, comme Jean-Luc Mélenchon, vous êtes quasiment convaincu qu'il y aura des grèves en France ces prochaines semaines ?
Mais en tout cas, on sent une colère sociale qui est très importante, parce qu'on a une inflation qui est à 5, 6, 7, 8% et on a en face des mesures économiques qui ne préservent pas le pouvoir d'achat. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, avec la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. On peut reprendre la question du blocage des loyers, où on bloque les loyers en augmentation à 3,5%. On sait que le pouvoir d'achat des Français va baisser de 1%, par exemple, en 2022. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il faut faire des efforts, mais ce sont toujours les mêmes qui font des efforts aujourd'hui. On refuse d'augmenter les salaires dans ce pays. Je le redis, on refuse de taxer celles et ceux qui empochent des sommes astronomiques. Est-ce qu'on peut accepter dans un pays comme le nôtre qu'une entreprise comme Total, certes c'est un symbole, mais Total, c'est 18 milliards de bénéfices en 2021, un record, un patron qui s'augmente son salaire de 52%. Est-ce que les Françaises et les Français ont vu leur salaire augmenter ? Aujourd'hui, on demande tout le monde de faire des efforts, et une fois de plus, on ne met pas à contribution les plus riches. Et puis on sort d'un débat sur la crise climatique. Quand j'entends, il y a un certain nombre de ressources, notamment l'eau, qui se raréfie. Mais on n'a pas attendu cet été pour savoir que c'était le cas. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour savoir qu'il y avait un réchauffement climatique qui explosait partout dans le monde. Ça fait des dizaines d'années que le GIEC, que des différents experts alertent sur ce qui se passe, proposent des solutions, disent qu'il faut sortir des logiques marchandes dans lesquelles on est et proposent un certain nombre de solutions qui ont été balayées d'un revers de main. Qu'a fait Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat pour lutter contre le réchauffement climatique ? Absolument rien. Et je termine sur une chose. On sort d'une loi où on fait voter la réouverture d'une centrale à charbon. Voilà aujourd'hui ce qu'a fait le gouvernement-là. Donc oui, il y a des ressources comme l'eau qui se raréfient, qui sont aujourd'hui menacées. Et il faut revoir notre modèle si on veut garantir l'accès à l'eau pour toutes et tous. Et nous avions d'ailleurs, dans la législature précédente, proposé avec la France Insoumise et notamment Mathilde Panot, d'inscrire le droit à l'eau dans la Constitution. Ça avait été balayé par le gouvernement. Nous, on considère que ce sont des biens communs qui doivent sortir des logiques marchandes, être inscrits dans la Constitution pour être garantis à toutes et à tous.
Marc Ferracci.
Sur la question du réchauffement climatique, sur la question des mesures qui ont été prises, d'abord j'attire l'attention sur le fait que les rapports du GIEC, ils posent un constat, ils ne préconisent pas des solutions qui s'apparenteraient à un changement de modèle économique ou à une sortie d'un modèle qu'on appellerait le libéralisme. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Je constate que les solutions qui sont proposées, notamment par la NUPES et par la France Insoumise, sont toujours un petit peu les mêmes. Il s'agit de partager le gâteau de manière différente, c'est-à-dire de taxer les entreprises les plus grosses, de taxer les gens qui ont le plus d'argent. Ça peut s'entendre, et je conçois qu'il y ait au sein de l'opinion publique et au sein de la population française une volonté sincère et le sentiment qu'on peut régler les problèmes comme ça. Mais la réalité, c'est que partager le gâteau, eh bien, ça ne résout pas le problème. Pourquoi ça ne résout pas le problème ? Parce que si on ne cherche pas, d'une manière ou d'une autre, à accroître les richesses que l'on crée, eh bien, à un moment ou à un autre, eh bien, on sera dans une situation où on aura du mal à préserver l'emploi, on aura du mal à préserver l'augmentation des salaires, on aura du mal à générer les gains de productivité qui permettent à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des administrations, de payer mieux les gens. Et ce que je constate, c'est que toutes les solutions, et vous parliez, M. Porte, de ce qui a été discuté dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, toutes les solutions que vous avez préconisées étaient des solutions qui non seulement ne proposaient rien pour créer plus de richesses, mais dont la mise en œuvre aurait de manière certaine, générer moins de création de richesses. Je pense en particulier au fait de taxer de manière indistincte les entreprises, ce qui génère des départs, ce qui génère des destructions d'emplois, qui sont les gens qui trinquent quand il y a des destructions d'emplois, quand des usines ferment. Ce ne sont pas les cadres. Les cadres, ils retrouvent de l'emploi très facilement sur le marché du travail. Ce sont les employés, ce sont les ouvriers, ce sont les professions intermédiaires. Et l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Quand on cherche à faire le bonheur des gens et que, ce faisant, on prend des mesures comme le SMIC à 1 500 €, comme de la surtaxation des entreprises qui aboutissent à des destructions d'emplois, eh bien, on ne fait pas le bonheur des gens. On crée, au contraire, de la pauvreté. Et sur cet aspect-là, on a une divergence profonde d'analyse, de conception et de vision du monde. Il faut créer des richesses avant de les redistribuer. La loi pouvoir d'achat, elle a préservé avec des mesures très concrètes le pouvoir d'achat d'un grand nombre de salariés. Le SMIC a été augmenté et aura été augmenté depuis un an de près de 8%, c'est-à-dire plus que l'inflation grâce aux revalorisations automatiques. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut aussi avoir une vision de long terme et la vision. C'est que c'est en créant de l'emploi qu'on préservera la pauvreté et qu'on se donnera aussi les moyens d'investir pour lutter contre le dérèglement climatique. Et là, là-dessus, je pense que nous avons effectivement une différence de vision fondamentale.
Alors, il y a aussi la prolongation du bouclier tarifaire pour les prix du gaz qui sont artificiellement bas. Et encore, des Français ont eu de mauvaises surprises s'ils ne sont pas au tarif réglementé ce mois-ci. Ces mesures de protection vont-elles suffire, Marc Ferracci ?
Écoutez, il ne nous a pas échappé que depuis maintenant quasiment 3 ans, depuis qu'on a commencé à subir des crises à répétition, le gouvernement, la majorité présidentielle se sont toujours adaptés à ce qui se passait très concrètement dans la vie des gens. Donc, si ça ne suffit pas, je pense que le débat aura lieu sur soit la prolongation, soit l'amplification des mesures. Aujourd'hui, les prix du gaz sont plus faibles en France qu'ils ne le sont partout en Europe. Et pas simplement d'ailleurs les prix du gaz et de l'énergie, mais quand vous voyez que les consommateurs belges franchissent la frontière pour aller s'alimenter dans les supermarchés français, de l'autre côté, c'est quand même le signe que la France fait un peu mieux que beaucoup de ses voisins pour préserver le pouvoir d'achat. Donc quand j'entends une partie des oppositions dire que rien n'est fait, que c'est toujours les mêmes qui trinquent, eh bien, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'être un tout petit peu lucide pour constater que ça n'est pas le cas. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que ça suffira ? Je ne suis pas capable de le dire aujourd'hui. Ça dépend de beaucoup de facteurs, et en particulier de facteurs géopolitiques qui sont très incertains. Mais ce que je dis, c'est qu'on s'est toujours adapté avec pragmatisme pour protéger les Français et qu'on continuera de le faire.
Les prix du gaz et de l'électricité devraient augmenter, c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine. Thomas Porte, Marc Ferracci, prenez l'exemple de la Belgique. Moi, j'ai envie de prendre celui du Royaume-Uni. C'est vrai que dans le très libéral Royaume-Uni, on voit une inflation encore plus forte et des manifestations à répétition. On ne peut pas comparer raisonnablement la situation en France à celle de nos cousins anglais.
Vous avez raison de souligner qu'il y a des mobilisations historiques aujourd'hui en Angleterre, inédites, jamais vues depuis d'ailleurs le règne de Margaret Thatcher, qui avait libéralisé l'ensemble du pays, notamment des services publics. Mais on peut toujours comparer avec ce qui se fait de pire pour dire que nous, c'est mieux. Effectivement, vous ne me ferez pas dire que ce qui se passe en Angleterre est comparable avec ce qui se passe en France. Mais je reviens sur ce qui a été dit, sur la question de comment partager les richesses. Parce que c'est ça le fond du problème. La France n'a jamais produit autant de richesses qu'aujourd'hui. Donc c'est faux de dire qu'il faut toujours produire plus de richesses pour répondre à la demande. Il y a beaucoup de richesses qui est produite dans le pays. Simplement, elle n'est pas partagée. Je vous donne un exemple. Sur les 10 dernières années dans ce pays, le versement des dividendes a augmenté de 70%, celui des salaires de 10%. Donc il y a une répartition des richesses qui part vers le capital, qui part vers des rentiers, vers des gens qui spéculent, qui aujourd'hui ne sont pas des créateurs d'emplois. C'est faux de dire ça. Et quand j'entends dire que nous, on veut taxer toutes les entreprises, c'est un des éléments de langage qui a été utilisé. Nous, on n'a pas parlé des TPE et des PME. Quand on dit taxons les super profits, les profiteurs de crise, on parle des grandes multinationales comme Total. Une entreprise qui, je le redis parce que des gens ne le savent peut-être pas, une entreprise qui n'a pas payé d'impôts en France en 2020 et 2021. Donc on parle de ces grands groupes-là, on ne va pas aller taxer le boulanger du coin ou le petit patron qui a sa plomberie au coin de la rue, qui évidemment est dans une situation difficile.
Des impôts dans tous les pays où il est présent. Plus de 14.
Pas en France. Pas en France. 0 € d'impôts payés en France.
Marc Ferracci.
C'est pas mes chiffres, c'est les chiffres y compris de l'entreprise.
Et ça, c'est c'est un constat que vous pouvez faire pour tout un tas d'autres entreprises. Si effectivement vous considérez que c'est parce qu'une entreprise a son siège social en France qu'elle doit payer l'intégralité de ses impôts en France, même si elle réalise son chiffre d'affaires dans d'autres pays à l'étranger, eh ben, il faudra vous abstenir de demander à ce que Google ou Apple soient taxés pour les activités qu'ils ont en France. Alors moi, je pense qu'il faut qu'ils soient taxés pour les activités qu'ils ont en France si vous appliquez de manière symétrique le même principe à Total. Il faut être un petit peu cohérent à un moment. Soit vous taxez les entreprises en fonction de là où elles ont leur activité, et dans ce cas-là, eh ben, il faut appliquer le principe à Total comme à Google, soit vous restez dans le statu quo. Moi, je pense qu'il faut évoluer sur ce sujet, mais pour reprendre votre point sur les grandes entreprises et les petites entreprises, moi, j'en ai un petit peu assez de cette logique binaire qui consisterait à faire croire que les grandes entreprises sont par essence mauvaises et que les petites entreprises sont par essence bonnes. Il y a des grandes entreprises qui respectent le droit du travail, il y a des grandes entreprises dans lesquelles les salariés sont bien traités, dans lesquelles les salaires progressent, dans lesquelles les conditions de travail sont bonnes. Et il y a des PME dans lesquelles ça ne se passe pas comme ça et dans lesquelles le droit du travail est piétiné, par exemple. Donc, il faut arrêter, à un moment ou à un autre, de dire qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Cette approche binaire, je crois que les Français ne la souhaitent pas. Je pense que ça ne correspond pas à ce qu'ils vivent dans leurs entreprises. Il faut y aller un petit peu. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je vous le dis, il faut, à un moment ou à un autre, avoir une vision et avoir une stratégie. Pour renforcer la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas de meilleure stratégie que d'aller vers le plein emploi. Pourquoi ? Parce que quand il y a 4% de chômage ou 5% de chômage, eh ben c'est plus facile de négocier avec votre patron votre salaire que quand il y a 10% de chômage. Quand il y a 4% de chômage ou 5% de chômage, c'est plus facile de saisir une opportunité pour changer d'entreprise si vous le pouvez, si vous le souhaitez, avec un meilleur salaire que quand il y a 10% de chômage. Donc nous assumons une stratégie qui consiste à amplifier ce qui a déjà été fait. Et puisque vous avez parlé des chiffres de ces dernières années, je vous indiquerai que le chômage était à 9,5 en 2017, il est désormais à 7,4, donc des résultats ont été obtenus. On souhaite poursuivre dans cette voie, précisément parce que nous pensons que c'est la meilleure stratégie en termes de pouvoir d'achat, accroître la taille du gâteau, faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois, plutôt que, couvert de partager mieux le gâteau, détruire de l'activité et détruire des emplois.
Soit dit en passant, Marc Ferracci, le débat sur cette taxe sur les super-profits émerge et réellement posé ces dernières semaines, y compris au sein de votre majorité. Je pense à cet amendement déposé par le député Renaissance Sacha Houlier. Si je vous dis ça aussi, c'est parce qu'Emmanuel Macron appelait à l'unité tout à l'heure.
Tout à fait, mais je pense que avoir le débat sur la taxe, c'est sain. Et moi, je suis content de pouvoir en débattre à l'intérieur de la majorité ou avec Monsieur Porte. Avoir le débat, c'est donner quelques arguments. Un premier argument que je donnerais, c'est qu'est-ce que c'est qu'un super profit ? Quand cette taxe a été présentée au Parlement, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, il a bien fallu trouver des critères pour savoir ce que c'était que les super-profits. Si on décide que c'est juste Total qui doit payer, eh bien, on est dans un cas de rupture d'égalité. Et on a quelques principes de droit dans notre pays qui font que ça devient vite inconstitutionnel. Donc il faut des critères. On a commencé à écrire dans des amendements, je les ai vus passer, M. Porte aussi très probablement, que les entreprises qui font des super-profits, c'est les entreprises qui ont eu 20% de bénéfices en plus par rapport à la trajectoire qu'elles ont eue dans les trois dernières années. Ce type de critère va embarquer des entreprises qui effectivement bénéficient de la hausse des prix de l'énergie, bénéficient de la conjoncture internationale sur laquelle, au fond, elles n'ont aucune responsabilité. Vous allez aussi embarquer des entreprises qui innovent, des entreprises qui ont fait des efforts pour créer de la richesse. Ça n'est pas si simple.
Thomas Porte, je vous laisse le mot de la fin, parce qu'on est pris par le temps. Thomas Porte, 30 secondes.
Oui, sur les super-profits, c'est simple. Nous, on a proposé de taxer les sociétés pétrolières, gazières et de fret maritime, qui, d'ailleurs, ça vient d'être rappelé, n'ont fait aucun effort pour engranger des richesses. Elles bénéficient, de la conjoncture actuelle et du fait qu'il y ait des pénuries, que tout ça est organisé par des spéculateurs. Donc, il faut mettre ces gens à contribution. Et je dis une chose, la majorité des Français est favorable à une taxe sur les super-profits.
Merci beaucoup Thomas Porte, député NUP, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci Marc Ferracci, député Renaissance des Français de l'étranger.
Merci.
Je rappelle que les examens de texte au Parlement ne reprendront que le 3 octobre prochain. Dans quelques instants, un nouveau journal, il vous sera présenté par Wilfried de Villers. A tout de suite sur Europe 1.